Bonsoir. Deux sujets sont au centre de notre tribune de la presse de ce soir. Il s'agit du démarrage depuis le début de cette semaine à la Chambre basse du Parlement des négociations politiques au sujet de la désignation des nouveaux animateurs de la CENI. Comme deuxième sujet, nous parlerons de l'accident de circulation vendredi dernier d'un minibus de marque Mercedes 207 qui a fini sa course dans la rivière Kalamu pendant qu'une forte pluie s'abattait sur la ville de Kinshasa. Ce drame remet sur la surface la question de la sécurité dans le transport en commun en RDC. Quels sont les thèmes de la tribune de la presse de ce soir? Trois confrères seront avec nous dans cette émission. Il s'agit de Benoît Combéré, il est rédacteur en chef du magazine Les Échos des Grands Lacs, un magazine qui paraît à Kinshasa. Benoît Combéré, bonsoir.
Bonsoir Samuel Katiak.
Nous serons également ensemble avec Laurel Kankolé, il est rédacteur en chef du quotidien Forum des As, un journal qui paraît à Kinshasa. Bonsoir Laurel Kankolé.
Bonsoir Samuel.
Nous serons également avec Pierre Mpikansimba, journaliste au magazine Regard d'Afrique et correspondant de la radio-télévision RTGA au Bas-Congo. Bonsoir Pierre Mpikansimba.
Oui, bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission. Le démarrage des tractations politiques au sujet de la désignation des nouveaux animateurs de la CENI et la question de la sécurité dans le transport en commun en RDC. Comment les journaux ont commenté ces sujets? Suivons ensemble cette revue de presse que nous présente Guy Maté.
Les consultations politiques en vue d'élire les nouveaux bureaux de la CENI font toujours la une de la presse locale. Les potentiels titres, Minaku consulte et après. À l'Assemblée nationale, le compte à rebours a commencé quant à la désignation des nouveaux membres de la CENI. Le président Minaku a entamé depuis lundi des consultations préliminaires auprès des différentes forces politiques et sociales. Pour quels résultats s'interrogent ces quotidiens quand on sait que, dans tout le cas, la CENI portera la marque de la majorité et de l'opposition. Forum des As, pour sa part, titre « CENI Minaku ouvre les consultations ». Le président de l'Assemblée nationale, Lobé Minaku, s'est entretenu avec les bureaux des groupes parlementaires sur les procédures de désignation des animateurs de cette institution d'appui à la démocratie. La prospérité insiste sur les rendez-vous le 11 juin prochain. Pour sa part, le président Minaku a rassuré quant au rôle d'arbitrage à jouer par les bureaux de la représentation nationale en cas de divergences persistantes dans la désignation des membres. Il a insisté également sur le respect du délai fixé, soit le 11 juin, pour l'investiture des nouveaux dirigeants de la centrale électorale. La radio onusienne est revenue sur l'accident de circulation qui s'est produit vendredi dernier sur le boulevard Saint-Louis à Kinshasa. Un bus de marque Mercedes 207 a fini sa course dans la rivière Kalamu, dans la commune qui porte le même nom. Un agent de la police sur place, qui s'est exprimé le même jour, a parlé des 12 morts et 8 rescapés. Le drame s'est produit vers 17h pendant la pluie qui s'est abattue dans l'après-midi de ce vendredi sur la ville de Kinshasa. Les causes de l'accident ne sont pas encore connues, mais Val Manga, le président de la Commission nationale de prévention routière CNPR, estime que les conducteurs du véhicule, l'état de la voiture et l'absence de signalisation sur les lieux de l'accident ont pu être à l'origine de ces drames. La police a retrouvé les corps des trois autres victimes de l'accident de circulation survenu le vendredi 3 mai dernier sous le boulevard Saint-Louis. Ces chiffres portent à 28 le nombre de personnes tuées dans cet accident. Pour l'instant, les causes de l'accident ne sont pas encore connues. Ni le gouvernement, ni les autorités de la ville de Kinshasa n'ont encore réagi depuis ces drames. Le ministre des Transports, absent du pays au moment de l'accident, a promis de réagir.
Merci beaucoup Guy Maté. Benoît Combéré, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos des Grands Lacs, un magazine qui paraît à Kinshasa. L'actualité cette semaine, c'est aussi la réintégration au sein des FRDC des plus de 500 combattants M23 ayant déserté les rangs de ce mouvement selon des officiels congolais. Un bref commentaire par rapport à ce sujet.
C'est des choses qui arrivent malheureusement souvent. On a vu avec les autres groupes armés, on a vu comment les gens du CNDP, les combattants du CNDP ont intégré les forces armées de la République démocratique du Congo. On sait comment ça s'est terminé et on voit encore, parce qu'ils ont fait défection au M23, ils ont été intégrés. Il semblerait qu'on aurait fait un tri, mais moi je n'y crois pas beaucoup. Ils ont intégré les forces armées de la République démocratique du Congo avec armes et bagages. Que nous réserve l'avenir? On peut se poser les questions.
Laurel Kankole, vous êtes rédacteur en chef au quotidien Forum des As, un journal qui paraît à Kinshasa. Les journaux ont aussi largement commenté la lettre ouverte adressée au chef de l'État par l'ONG internationale Human Rights Watch. Dans celle-ci, elle invite le chef de l'État Joseph Kabila à mettre fin à l'impunité pour les auteurs des graves violations des droits humains en RDC. Quel est votre commentaire, Laurel Kankole?
Mon commentaire, Samuel, mais il est le même. N'importe qui ne peut que faire le commentaire dans le même sens, parce qu'aujourd'hui, on réalise que la vraie raison et la cause principale de toutes les exacerbations de la commission des crimes contre l'humanité, c'est l'impunité. Et regardez un peu plus près de nous, pour ne pas aller très loin, lorsqu'on arrête un Kuluna qui fait la prison une semaine ou deux semaines après, qui revient, et quel est son comportement? Ben il s'en fout du reste, pour lui la prison ne lui dit plus rien. Non, c'est juste une chambre de visite. Aujourd'hui, la vraie cause de l'impunité, plutôt la vraie cause de tous ces crimes, c'est exactement l'impunité. Je crois que le chef de l'État ne devrait plus lessiner sur les moyens pour ne pas sévir fortement. C'est l'issue et la solution idéale pour mettre fin à l'impunité. C'est vrai, il serait prétentieux de dire on va tout arrêter, mais néanmoins, on aura à réduire les proportions. Voilà mon point de vue à ce sujet.
Pierre Mpikantsimba, vous êtes journaliste au magazine Regard d'Afrique et correspondant de la radio-télévision du groupe L'Avenir, RTGA au Bas-Congo. Cette semaine a été aussi marquée par l'an 1 du gouvernement Matata Ponyo. Quelles sont vos impressions sur cet événement?
Merci beaucoup pour la préoccupation. Un an, c'est à la fois beaucoup et peu pour juger un quinquennat, mais il est évident que les jugements doivent se faire par rapport aux défis à relever, mais aussi aux attentes de la population en République démocratique du Congo. Et s'il faudrait revenir sur ces deux aspects évoqués, nous pouvons dire que par rapport aux attentes de la population, principalement au vécu quotidien, le gouvernement Matata est encore loin d'être applaudi par la population, qui a encore du mal à nouer les deux bouts du mois. Les manger, les soins médicaux, la scolarité des enfants, les transports, l'eau, l'électricité demeurent pratiquement un luxe pour les Congolais qui ont vraiment du mal à vivre. Alors, cela n'en a pas de distinction, que ce soit pour les travailleurs comme pour les chômeurs. En tout cas, la situation demeure difficile. Et là, sans oublier, bien sûr, l'insécurité à laquelle la population de l'Est est exposée. Les Kuluna, les tracasseries de tout genre, etc.
Alors, Pierre Mpikantsimba, quelle est alors l'actualité qui est à la une aujourd'hui ou cette semaine à Matadi au Bas-Congo?
Bon, nous, au niveau de la province, l'actualité reste dominée pratiquement par un drame qui s'est produit dans une localité non loin de la ville portuaire de Matadi où un sergent des FRDC s'est permis à tirer à bout portant sur la foule et mettant fin à la vie de 7 personnes, dont un major des FRDC. Donc voilà un peu ce qui défraie la chronique pour l'instant chez nous dans la ville-province de Matadi.
Merci Pierre, et nous abordons directement notre premier thème de ce soir. Processus de mise en place du nouveau bureau de la CENI, les composantes telles que les groupes parlementaires de la majorité présidentielle et de l'opposition, ainsi que la société civile composée des confessions religieuses, associations des femmes et les ONG de défense des droits humains et électoraux vont s'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale autour de la désignation des différents membres devant composer l'actuel organe électoral d'appui à la démocratie. Des pourparlers ouverts mardi dernier, comme l'a annoncé Aubin Minaku, président de cette chambre basse du Parlement, lundi dernier au Palais du Peuple. C'était à l'issue d'une rencontre avec les représentants des 13 groupes parlementaires, une réunion qui a permis de lever certaines options sur cette désignation des nouveaux membres du bureau de la CENI, mais aussi de rappeler leur rôle dans ce processus. Les détails avec vous, Mimi Ngumba Mulongo.
Parmi les options levées dans cette réunion, la liberté pour chaque composante de choisir ses délégués et la non-ingérence dans les affaires de la société civile, sans oublier la représentativité nationale et celle du genre. À ce niveau, le président du groupe PPRD affirme que tout se porte bien à la MP, Shadary Ramazani.
Les choix des candidats de la majorité également se feront librement en tenant compte des critères que nous aurons définis, nous, la majorité, mais je pense qu'on va jouer sur la proportionnalité qui est dictée par notre règlement intérieur.
Du côté élus du groupe UDPS, l'on déclare que la désignation doit nécessairement tenir compte du poids politique de chaque parti, son président Sami Badibanga.
Le choix sera présenté par rapport à la proportionnalité du poids numérique des élus des partis qui sont représentés à l'Assemblée. Le peuple a voté et on tient compte de ce poids numérique.
Le bureau de l'Assemblée nationale, lui, va jouer le rôle d'arbitre en cas de divergences persistantes. Le président Obaminaku l'a rappelé ce lundi.
Et le rôle du bureau, c'est tout juste une facilitation et un arbitrage en aval au cas où il y a quelques petits problèmes.
La même source a aussi rassuré quant au respect de la loi en la matière et du délai imparti pour la mise en place du bureau de la CENI.
Benoît Kambéré, les négociations politiques au sujet de la désignation des nouveaux animateurs de la CENI sont ouvertes. Mais des divergences commencent déjà à opposer certaines composantes. Comment, Benoît Kambéré, vous analysez cette situation?
Quand on connaît la classe politique congolaise, ça ne m'étonne pas du tout. Il est tout à fait normal que, connaissant la classe politique congolaise, ces divergences apparaissent. Et bon, il y a des divergences, il y a des revendications tout à fait fondées. C'est vrai, il est bien de changer les hommes au niveau de la CENI, au niveau national, mais ce qui est mieux, qu'il faille qu'on change également au niveau des provinces et au niveau de la base. Et ça, c'est une revendication que, en principe, le Parlement devrait tenir compte, du moins le bureau du Parlement. C'est vrai, on a décrié le fait que la loi sur la CENI a été promulguée telle qu'elle a été. Ce n'est pas l'entendement de la société civile, ce n'est pas l'entendement même du député Emery Okundji qui avait donné un projet pour essayer de trouver un consensus autour de ça et de sécuriser les uns et les autres pour des élections moins catastrophiques que les élections qu'on a eues avec M. Ngoï Moulunda, n'est-ce pas? Mais malheureusement, on n'en est pas arrivé là. On est arrivé à une CENI politique avec la majorité et la mouvance présidentielle. Je n'aime pas beaucoup l'appeler majorité parce que je me demande dans quoi elle est majorité. La mouvance présidentielle...
Elle est majorité par rapport aux élections, par rapport à leur poids politique à l'Assemblée
nationale. Par rapport à ceux qui le représentent au Parlement, tout simplement. Parce que dans l'opinion, malheureusement, ce n'est pas ce qui apparaît. Parenthèse que je referme, n'est-ce pas?
Cela, c'est votre point de vue, bien sûr.
Ainsi, et l'opposition qui... Donc, les politiques sont majoritaires par rapport à la société civile. Et ça, c'est n'est pas ce que aurait voulu l'entendement populaire, aurait voulu le projet de loi qui avait été proposé pour corriger tout ce qui s'est vu lors des élections, toutes les irrégularités décriées du reste par tout le monde lors des élections passées de 2011. Maintenant, ce sont les politiques qui pilotent et ils commencent à s'entre-déchirer déjà pour avoir leurs représentants dans cette CENI. Comme tout le monde sait, c'est l'enjeu de l'heure. On a oublié tous les problèmes. Tout le monde est dans la danse pour qu'il soit représenté à la CENI et de façon que ses intérêts soient sauvegardés.
Apparemment, on est loin de sortir de l'auberge puisqu'on avait décrié les mêmes situations dans l'ancienne CENI. Et on a tendance à retrouver cela dans cette CENI. Est-ce que vous pensez qu'en fait, il y a espoir quand même d'un changement?
Malheureusement, effectivement, comme tu l'as dit, moi je ne dirais pas que c'est ton point de vue, c'est tout simplement les faits, n'est-ce pas? Malheureusement, on risque de retomber sur ce qu'on a décrié. Les politiques dominent la CENI et quand on connaît les politiques congolais, chacun prêche pour sa chapelle et c'est malheureux.
Laure Kankole, comment vous analysez toutes ces divergences autour de la désignation des membres de la CENI? Est-ce que cela peut être un frein pour la mise en place en temps voulu de cet organe? Laure Kankole, vous m'écoutez? La technique nous signale que nous avons des petits problèmes avec la liaison de Laure Kankole. Pierre Mpikansimba, on remarque que la désignation de ces animateurs de la CENI semble plus facile au sein de la majorité présidentielle. Mais au sein de l'opposition et de la société civile, il y a plus de divergences qui planent. Et on se demande comment va-t-on procéder au sein de ces deux composantes. Est-ce qu'on va procéder par vote ou par consensus? Et quelle pourrait être votre proposition au cas où un consensus serait difficile à être dégagé? Pierre Mpikansimba, on nous signale que nous avons des petits problèmes de communication. Mais Benoît Kambéré, je préfère quand même vous poser cette même question. On remarque qu'au niveau de la composante mouvance présidentielle, c'est-à-dire majorité présidentielle, le choix des animateurs serait plus facile. Mais au sein de l'opposition, il y a encore des problèmes qui planent. On se demande aussi comment est-ce qu'on peut procéder dans ces deux composantes. Est-ce qu'on va procéder par vote? Est-ce qu'on pourrait procéder par consensus ou quoi? Quelle pourrait peut-être votre proposition au cas où un consensus serait difficile à être dégagé?
Ben c'est difficile effectivement pour la simple raison que à l'opposition, tout le monde connaît l'opposition congolaise, elle est plurielle. Mais par contre, à la mouvance présidentielle, c'est des mots d'ordre qui sont donnés et généralement ces mots d'ordre venant de quelque part sont respectés par... Il y a une certaine discipline dans les mots d'ordre qui sont donnés et là, ça ne posera pas beaucoup de problèmes. C'est vrai, l'idéal serait qu'on ait un consensus. J'ai entendu tout à l'heure dans le commentaire que tu as donné, ou plutôt dans la lecture des déclarations des politiques qu'on a eues, il est mieux qu'on ait le consensus tenant compte des poids politiques des uns et des autres. Effectivement, en ce qui concerne l'opposition, il est mieux qu'on ait un consensus et qu'on ne se déchire pas comme des chiffonniers. Parce que malheureusement, le même son de cloche, on le voit dans la société civile. Heureusement que dans la société civile, qui est plurielle, il y a moins de divergences. Même si j'apprends que 3 déjà délégués sont déjà connus en ce qui concerne la société civile d'inspiration chrétienne, le RODESIC, qui a désigné déjà ces 3 membres qui doivent aller, qu'on doit présenter auprès du bureau de l'Assemblée nationale. C'est ce qui est prévu comme procédure. Et en cas de divergence, en cas de problème, c'est le bureau qui va faire les arbitrages pour essayer de trouver un consensus sur les candidats qui sont là. Mais malheureusement, une fois de plus, c'est toujours les mêmes, les politiques, avec leurs divergences, qui sont en train de s'affronter. Et compte tenu des enjeux des élections et compte tenu des intérêts et des autres et des intérêts des uns et des autres, on tirera la couverture dans un sens comme dans un autre pour que les intérêts des uns et des autres soient retrouvés.
Est-ce que vous pensez que tout ce que vous dites là, si on l'avait accordé à la société civile, on pourrait vraiment avoir un changement?
Écoutez, la société civile, elle est par définition au milieu du village. Mais malheureusement, on a vu, et c'est ça le drame de notre pays, des sociétés civiles rangées, des sociétés civiles à la solde des politiques, et cela a toujours posé problème. On a vu des gens, mais depuis toujours, la CNI d'abord, la CEI d'abord, et la CNI ensuite, ont été dirigées par les membres de la société civile. Et cela n'a pas empêché qu'on ait les problèmes qu'on a eus. Et maintenant, certes, ce sera encore une fois quelqu'un de la société civile qui dirigera, mais il aura en majorité autour de lui des politiques, et c'est là que ça posera problème, comme cela a posé problème, et à la CEI, et à la CENI.
Mais quelle est alors la voie de sortie selon vous, Beno Kambere?
La voie de sortie, c'est, disons, touchons du bois, je ne dirais pas qu'on prie le bon Dieu, mais si on veut, s'il y a une volonté politique dans notre pays, que les élections se passent comme elles devaient se passer, comme ça se passe dans des pays, j'allais dire civilisés, je dis des pays de grande démocratie, ça peut arriver. Mais il suffit qu'on ait une volonté politique, que les élections se passent bien, qu'on ne cherche pas à tripatouiller dans la Constitution avant les élections. Comme on l'a vu en 2011, on a tripatouillé à la Constitution avant les scrutins. Et si les règles du jeu sont respectées et qu'on fasse attention à tout, ça peut bien se passer. Mais avec les politiques congolais, on peut s'attendre à tout.
Mais Beno Kambere, en vous entendant parler, vous remettez en cause les politiques et même la société civile. Mais avec qui alors vous aurez souhaité qu'on travaille?
Non, on ne peut travailler qu'avec le matériau qu'on a. Et le matériau qu'on a, ben c'est les hommes congolais.
Qui sont de la société civile ou des politiques.
Qui ne sont pas des saints. Les politiques qu'on a, nous les connaissons. Les gens de la société civile qu'on a, nous les connaissons, ils sont rangés à gauche ou à droite, au centre ou au demi-centre, on les connaît, malheureusement. Mais s'il y a une volonté politique que les élections se passent comme elles doivent se passer, c'est-à-dire dans la transparence, dans la crédibilité et au profit de la transparence, je crois qu'on devrait arriver à quelque chose de bon. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec la classe politique congolaise. J'ai mal utilisé le mot. Je n'utilisais même pas la classe politique, les politiques congolais, parce que la classe, ça fait soft, ça fait classe, mais malheureusement, ce n'est pas ça qu'on a dans notre pays.
Mais c'est quand même trop dur ce que vous dites, Beno.
Non, je suis tout simplement un observateur de notre fameuse classe politique. Ça fait 50 ans que je l'observe avec mon petit métier de journaliste, n'est-ce pas? Je les connais tous. Ils ne sont pas, malheureusement, à quelques rares exceptions, Il y en a qui sortent du lot, mais malheureusement, la grande majorité, c'est des politiques ailleurs.
Mais Benoît Cambéré, on sait très bien qu'aujourd'hui, la société civile est plurielle. Est-ce que vous pensez vraiment qu'un consensus serait facile à dégager de ce côté-là?
Ils seront malheureusement, ils auront malheureusement l'arbitrage du bureau de l'Assemblée nationale, qui est un bureau politique, qui est un bureau composé de politiques. Et là encore une fois, ce seront les intérêts de ces politiques qui risquent de primer. Nous savons qui était dans la société civile ici et qui y sont aujourd'hui. Il y en a qui se sont dévoilés en créant des partis politiques. Je ne vais pas citer des noms. Suivez mon regard. Mais nous connaissons ce qu'est la société civile congolaise. Mais les trois noms, je ne sais pas si je peux les citer, qui ont été déjà avancés, peuvent faire en sorte qu'on ait un espoir. Il s'agit de Jérôme Bonso, de la ligne élite, et de Jean-Baptiste Ndoundou, de Rodesic, et de Madame Grace Lula, du regroupement des femmes pour les élections, qui sont des gens quand même crédibles et qui ont une expertise dans les domaines des élections. On peut s'attendre à quelque chose, mais malheureusement, ils ne sont pas majoritaires. Ils seront à la merci des majoritaires qui seront dans le bureau, que sont les politiques et de l'opposition et de la mouvance présidentielle.
Mais Benoît Cambéré, à cause de cette situation, de la désignation des membres de la CENI au sein de l'Assemblée nationale, il y a deux groupes parlementaires, UDPS et Alliés, qui se sont formés. Comment est-ce que vous analysez cette situation?
C'est tout simplement à l'enjeu de la désignation de membres du bureau de la CENI.
Donc je voulais dire, il y a l'UDPS allié et l'UDPS FAC qui s'est créé au sein de l'Assemblée nationale.
Tout simplement parce qu'il y a un poste qui est très important, c'est le poste de rapporteur qui est destiné à l'opposition. Et c'est la guerre pour la bataille, si je peux ainsi m'exprimer, pour occuper ce poste qui est en train de se passer. Et là, tous les coups, semble-t-il, sont permis.
Oui, Benoît Cambéré, ce débat sur la désignation des membres de la CENI et leurs animateurs peut concerner aussi l'opposition extra-parlementaire. Et en cas de divergence persistante entre les composantes, quel organe peut trancher là-dessus?
Malheureusement, je n'en vois pas. En principe, ça devrait concerner tout le monde et l'opposition extra-parlementaire. Il paraît que la loi ne le prévoit pas. La loi parle de l'opposition parlementaire et c'est dans cette opposition parlementaire qu'on trouvera les membres qui seront désignés au bureau de la CENI. Et du côté de l'UDPS, on dit l'UDPS extra-parlementaire. Ils se disent non concernés par ce qui est en train de se passer au Palais de la Nation pour la désignation des membres de ce bureau de la CENI relooké.
Apparemment, cela ne gagne pas un bel avenir.
Non, malheureusement.
Mais Benoît Cambéré, que va-t-il se passer si l'une des composantes n'arrive pas à désigner ses délégués à la CENI durant les 45 jours impartis par la loi?
Il se passera que ce sera le bureau de l'Assemblée nationale qui est composé des politiques de la mouvance présidentielle qui désignera les membres, même si on a dit quelque part la liberté de chaque composant de désigner les membres, ses membres à la CENI. S'il n'y a pas de divergence, malheureusement, c'est ce bureau de l'Assemblée nationale composé des politiques de la mouvance présidentielle qui se chargera de désigner quelqu'un qui va entrer au nom de l'opposition dans ce bureau de l'Assemblée, dans ce bureau de la CENI.
Mais est-ce qu'on risque pas de retomber dans les situations décriées dans le passé?
Tomber dans ces situations et j'ai comme l'impression que c'est voulu parce qu'on est en train de jouer des intrigues pour que la situation arrive et qu'on désigne des gens qu'on veut bien désigner comme on en a désigné lors des autres bureaux de la CENI.
Laurent Cancolé, la technique nous signale que vous êtes en ligne. Vous nous écoutez maintenant?
Oui, je m'entends, Samuel. Pareillement.
Ok, tout à l'heure, nous disions qu'il y a beaucoup de divergences autour de la désignation des membres de la CENI au niveau de la classe politique congolaise. Du côté de la majorité présidentielle, on remarque qu'en fait, le choix pourrait être plus facile. Mais du côté de l'opposition, il y a encore beaucoup de divergences qui planent. Et ces divergences divisent même la société civile. Quelle est votre analyse?
Oui, c'est leur droit, Samuel. Tu pourras ne pas être d'accord avec moi, mais cette proposition aujourd'hui ne fait plus l'unanimité, elle est plurielle, de la même façon avec la société civile qui est une société civile plurielle. Et parlant de la société civile plus concrètement, je me dis, est-ce qu'elle est encore une société civile dans ses responsabilités d'une société civile totalement apolitique? Est-ce qu'elle est une société civile, ou elle est plutôt une société civile marchepied des politiques? Moi, je me dis, à ce stade-ci, le problème, c'est pas simplement le problème de personnalité, mais c'est plutôt le problème de personnes. On pourra avoir des personnes qui ne dégagent aucun moindre profit à la tête d'une institution sensible comme la CENI. Il est vrai qu'il n'y a jamais eu des élections sans contestation. Mais il ne faudrait pas que la contestation parte de la personne même qui a dirigé l'institution. Donc, à mon avis, il faudrait qu'on ait à la tête de la CENI aujourd'hui une personnalité qui dégage le moindre crédit, ne plus qu'un minimum de crédit pour crédibiliser l'institution CENI. On a eu l'abbé Malomalou, très catholique. On a eu Mouimouna, très pasteur protestant. Aujourd'hui, il y a des bouches qui disent qu'il faudrait, dans le cadre de l'écuménisme, confier la CENI à une autre confession, soit le kimbanisme, soit le musulman. Ok, dis bon, mais est-ce que c'est ça qui résout le problème? Donc moi, je dis, à ce stade-ci, ce qui est important, c'est d'avoir à la CENI, à la tête de la CENI, une personne de forte personnalité qui ferait ne plus qu'un minimum d'unanimité dans l'opinion. Voilà.
Oui, Pierre Pika Nsimba, est-ce que le péché originel de la CENI n'aurait pas été d'avoir fait de cet organe un organe politique que technique, comme cela devrait vraiment se passer?
Bon, par rapport à ça, moi je pense que il aurait fallu se référer aux différentes erreurs commises par le bureau Ngoï Moulunda. Et c'est à base de ça que la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI a été modifiée. Donc, si on peut arriver à porter des modifications sans tenir compte des erreurs du passé, moi je pense qu'on est en train de tourner en rond. Ça ne sert à rien de pouvoir changer de figure, d'autant plus que les personnes qui vont être placées là-bas vont refléter les mêmes mentalités, ils vont devoir être à la base des mêmes erreurs que la fois passée. Moi je ne trouve pas comment on doit arriver à placer de nouvelles figures si on reste dans cette même philosophie.
Pierre, mais on dit que le problème fondamental n'est pas celui des textes, mais celui d'hommes. Qu'est-ce que vous pensez de cela?
Bien sûr que oui, c'est un problème d'hommes, d'autant plus que quand les lois ne seront pas vraiment mises en application, au vrai sens du mot, puisque si on en arrive, par exemple, à se référer à cette loi qui a été modifiée, on se rend compte que on cherchait à renforcer l'indépendance, la neutralité et la crédibilité du cadre institutionnel d'organisation des élections dans notre pays. Mais si, par exemple, que cette neutralité, cette indépendance, cette crédibilité ne va pas s'éprouver par ces animateurs, mais ça ne sert à rien. Donc, c'est aussi un problème d'hommes, comme vous le dites.
Oui, sans transition, nous passons directement à notre deuxième sujet de notre émission. Lundi dernier, trois jours après l'accident automobile survenu sur le boulevard Sendoué, certaines familles des victimes continuent toujours à rechercher les corps de leurs membres de famille. Un minibus de marque 207 avec passagers à bord avait terminé sa course vendredi dernier dans la rivière Kalamu pendant une forte pluie. 24 personnes avaient trouvé la mort dans cet accident, mais d'autres passagers n'ont toujours pas été retrouvés. Michel Kifindangoy pour le reportage.
C'est en ces termes que cette mère demande à l'autorité publique de s'impliquer dans la recherche du cadavre de leur fille, une étudiante de l'ISC disparue vendredi dernier. Elle était dans le bus qui a fini sa course dans la rivière Kalamu. Témoignage du père de la victime.
Jusqu'à présent, nous recherchons toujours en vain le corps de notre fille, mais l'État ne fournit aucun effort pour nous y aider.
Ce qui fâche, c'est qu'aucune mesure n'a été prise pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens après cet énième accident de ce genre.
Nous regrettons, on ne voit même pas l'importance de l'État. Nous avons l'État, nous payons les impôts, mais au retour, l'État ne nous sécurise même pas. Alors qu'en France, s'il y a un otage, il y a le président de la République qui monte, il s'étonne. Mais ici, une trentaine de morts, toutes les institutions calmes, toutes les autorités sont calmes, comme si rien n'était. Parce que ce sont les petits peuples qui sont morts.
Pour rappel, ces véhicules d'une capacité de 24 places assises avaient à son bord plus d'une trentaine de passagers. Selon le commandant du bataillon ouest de la police des circulations routières, encore une fois, c'est le non-respect du code de la route par le chauffeur qui est à la base de l'accident de vendredi dernier à Kinshasa.
Trois jours après l'accident du bus 207 qui a terminé sa course dans la rivière Kalamu. Aucune réaction ni du gouvernement central, ni de l'hôtel des villes. Et pourtant, ce drame a occasionné la mort de près d'une trentaine de Congolais. Entre-temps, le bilan des morts ne fait que s'alourdir. L'avant-midi du lundi, 3 autres corps sans vie ont été retrouvés dans la rivière Kalamu, au niveau de Ndolo et dans le fleuve Congo. On écoute un élément de la police de Soussiat, Bakayao, au micro de Michel Kifindangoy.
La nuit sous pluie, nous avons ramassé le premier corps, c'était à Pakajuma, tout près de la société André Motor. Vers 22h53, on a encore ramassé notre corps ici, face à face de notre société de la police. Après le matin ici, on nous a informé qu'il y a encore notre corps sur le fleuve. Nous sommes partis avec le bourgmestre de la commune de Limité, avec le commandant compagnie. On a encore ramassé notre corps. Puis on a déjà transféré ça au morgue par le canal de gouverneur de la ville qui a envoyé le véhicule pour transférer ça.
Pour rappel, 24 corps sans vie ont été repêchés le même jour de l'accident. 2 autres corps avaient été retrouvés le jour suivant, renseignent d'autres sources. Ce qui fait au total 28 morts. Mais il n'est pas exclu que d'autres corps soient retrouvés dans les heures ou dans les jours qui suivent. Laurel Kankole, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du quotidien Forum des As, un journal qui paraît à Kinshasa. Quelle analyse vous faites de cet accident de circulation qui remet sur la surface la question de la sécurité dans le transport en commun en RDC?
Oui, Samuel, je crois que quiconque a suivi cet accident sera d'accord avec moi que nos routes sont devenues davantage mortelles. Et à cet effet, il n'y a pratiquement pas un dispositif sécuritaire qui accompagne la modernisation de ces routes. Regarde à ce niveau-là. Il y a d'abord un mur qui fait obstacle à l'entrée de l'avenue du stade, à ce niveau-là. Deuxièmement, ce pont, depuis qu'il est pont, n'est jamais accompagné de garde-fous. Moi, j'ai la conviction, et ça c'est une thèse qui m'engage que moi, que si on avait des garde-fous solides, ce véhicule aurait percuté ces garde-fous et peut-être amorcé le choc. On aurait évité ce qui est arrivé. Parce qu'un accident par essence, c'est un événement malheureux qui arrive à l'improviste, mais il y a des accidents qu'on peut prévenir. Malheureusement, la plupart des ponts de Kinshasa sont sans garde-fous. Regarde aujourd'hui le petit pont de Bandar Moula. L'État attend peut-être qu'il y a encore des morts pour qu'on aille pleurer. Alors que le pont s'affaisse du jour le jour et offre un décor qui augure un sinistre. Aux conséquences, peut-être très regrettable, mais aucune disposition n'est prise pour prévenir tout ça. Donc, moi je pense qu'à certains niveaux, il faudrait qu'on s'arrête et prendre des responsabilités. Il y a des bus aujourd'hui. Et moi, ça me fait la sueur froide quand même les officiels appellent ces bus esprits des morts. Donc l'État est même conscient que ces bus vont tuer. Mais quelle disposition on a prise? Aucune. On a importé des bus, on a acheté des bus, mais on m'apprend que ces bus ne pourront être mis en ligne que le 30 juin parce que c'est une date symbolique. Franchement, c'est en sérieux. Et entre-temps, qu'est-ce qui va assurer le transport de la commune de la population qui meurt? Rien. Tu vois un peu. Donc, nous sommes un peu dans ce folklore ambiant qui fasse que, bon, il y a des choses sérieuses, mais qu'on prend à la légère. Le secteur clé comme celui du transport de la commune, qu'on laisse depuis des années au privé. Alors que le privé ne devrait venir qu'en appui à l'État parce que l'État est quelque peu limité. Cher ami, sans sérieux, qu'est-ce qu'on fait? Nous faisons quoi? Et entre-temps, il n'y a pas de solution. Je le dépose simplement, voilà.
Oui, Benoît Cambéré, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs qui paraît à Kinshasa. Avec ce énième drame qui frappe la capitale congolaise, est-ce que doit-on définitivement interdire les bus 207 dans les transports en commun à Kinshasa?
Moi, je me suis toujours posé la question de savoir à quoi rime, à quoi pensent nos autorités quand ils pensent même à de telles décisions. Les bus 207 n'existent pas seulement en République démocratique du Congo. C'est des Mercedes qui viennent d'Allemagne, qui roulent partout à travers le monde. Il n'y a que dans notre pays que cela pose problème. On devrait plutôt se poser la question de savoir l'état de ces bus ici. Est-ce qu'il y a un contrôle technique? Les chauffeurs qui conduisent ces bus, qu'est-ce qu'ils font? Tous ces receveurs qui deviennent des chauffeurs tout simplement parce que, en passant à un carrefour, ils tendent la main à un policier de roulage qui prend 500 francs et le tour est joué. C'est tout ça. C'est le laxisme, l'impunité. Ici, est chauffeur qui veut. Et c'est la conséquence de tout ça qui fait que cela arrive. Le transport en commun dans notre capitale Kinshasa, avec 10 millions d'habitants, est tenu par des privés. Où on a vu ça dans le monde? Il n'y a que chez nous. Les fameux bus dont on a parlé, il semble qu'on attend le flonflon du 30 juin pour les mettre en ligne. Est-ce que on s'occupe de la population dans ce pays? Est-ce que on se préoccupe du social de la population? La population est laissée à la merci des privés qui transportent des fois les quinois comme du bétail et ça ne met personne. Les autorités roulent dans leurs jeeps climatisés, qu'il vente, qu'il pleuve. Ce n'est pas leur problème. Et c'est non, cela qui pose caméré. Problème. Et on me dit, est-ce que vous avez vu une autorité après ce drame à Kalamu? Moi, je n'ai pas vu. Ni le gouverneur de la ville, ni qui que ce soit. Aujourd'hui, on me dit non, le ministre était en mission. Comme le ministre est en mission, personne ne s'en occupe. Allez, arrêtons.
Juste pour vous compléter, vous parlez tout à l'heure de laxisme. Mais récemment, le gouvernement a pris une série de mesures, entre autres le contrôle technique et le recyclage des chauffeurs. Mais apparemment, ces mesures n'ont pas eu en fait des mécanismes de suivi.
Est-ce qu'il y a eu même un début d'exécution? Quel mécanisme de suivi quand on sait comment la corruption se porte très bien dans ce domaine? Il suffit d'avoir un peu d'argent, même pas, une poignée de main, tu passes à quelqu'un, on te fait passer sans qu'on ne contrôle quoi que ce soit. C'est ça qui tue notre pays. L'impunité, le laxisme, on fait comme si le social de la population ne comptait pas. C'est malheureux. C'est malheureux pour des gens qui sont appelés à diriger des hommes et pas du bétail.
Oui, Pierre Mpikantsimba, vous êtes journaliste au magazine Regard d'Afrique et correspondant de la radio-télévision du groupe L'Avenir au Bas-Congo. Quelle analyse vous faites de ce drame survenu dernièrement à Kinshasa et quelles leçons peut-on en tirer?
C'est d'abord malheureux de pouvoir laisser des hommes périr parce que il y a une certaine irresponsabilité quelque part. Mais au regard de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un problème de manque de prise de conscience chez les uns comme chez les autres. Du côté du gouvernement, par exemple, moi, je trouve mal que, parce que le ministre est en déplacement, il faut chercher à laisser la situation pourrir comme ça. C'est comme si quand il part, tout le pouvoir est parti avec lui. Ce qui n'est pas du tout normal. J'espère que M. Benoît Kambere a évoqué ça. Il n'y a pas de mesures sécuritaires pour pouvoir, par exemple, sécuriser les usagers de la route au niveau de ces ponts-là, s'il y avait des garde-fous. Les bus n'auraient pas entré dans les eaux, ce qui n'est pas du tout normal. Mais aussi, quand vous êtes en train de voir comment l'incident s'est produit, il y a aussi une part de responsabilité du côté du conducteur de ces bus-là, qui, en dépit de l'atmosphère, des conditions dans lesquelles il roulait, puisque, si je ne me trompe pas, on a dit qu'il était en train de rouler sous une forte pluie. Mais d'autant plus que le climat ne permet pas. Vous devez savoir comment vous devez rouler. Mais parce que il manquait une certaine conscience, on roule comme on veut, et c'est comme cela qu'il faut chercher à faire périr des âmes comme ça, ce qui n'est pas normal. Donc moi je pense que ça relève d'une certaine prise de conscience chez les uns comme chez les autres pour arriver à éviter des incidents pareils dans l'avenir.
Laurel Concolé, que faut-il pour avoir une entreprise publique de transport en commun viable? Car autrefois nous avions OTCZ, Sotrace et Transam. Aujourd'hui nous avons Cititrain et Stuc, mais qui existent comme des canards boiteux. Quel est votre commentaire?
Oui Samuel, tu retiendras avec moi que le secteur de transport en commun est celui qui paye le moins bon. Et par conséquent, il n'y a que l'État qui peut soumis et assurer ce service-là à ses concitoyens. On ne devrait pas attendre que ça rentabilise. Non. Si aujourd'hui l'État réalise qu'on a par exemple pris ville de Kinshasa, un minimum de 1000 bus peut suffire. Mais le vrai problème, c'est que il n'y a pas de gestion qui suit, il n'y a pas de financement qui soutient. Des pannes bêtes de pneumatiques, un bus égaré. Des pannes bêtes de ceci ou de cela, un bus égaré et finalement ça va décrescendo jusqu'à ce que l'entreprise mettre la clé sous les parations. On l'avait avec la Sotrace. Aujourd'hui, où nous avons un nombre indéterminé de policiers, Dieu sait combien on a de policiers ici à Kinshasa. Dieu sait combien on a de militaires ici à Kinshasa. Qui ne prennent que ces bus-là, des ayants droit qui ne payent pas. À une course à l'aller, voire au retour, on a par exemple 20 000 francs congolais. Quelle est la recette journalière? Elle est tout à fait maigre. Alors, qui doit compenser? C'est l'État. Mais si l'État ne doit pas compenser, ne doit pas prendre en charge le transport de ces agents, ceux qui ne payent pas les ayants droit. Mais rassurez-vous qu'on assistera à la même situation. Il n'y aura pas d'amélioration. Moi, je ne suis pas pessimiste, mais du moins, je tiens compte de ce que nous vivons au quotidien, de ces réalités. C'est ça, le réalisme de chez nous. Donc, pour qu'une société de transport soit viable dans notre pays, il faudrait qu'il y ait une subvention substantielle de l'État. C'est la prise en charge totale de la société par l'État congolais. Voilà.
Oui, Benoît Kombéré, le gouvernement récemment a pris une série de mesures, entre autres l'interdiction de l'importation des véhicules n'ayant pas atteint 10 années de leur fabrication. Est-ce que vous pensez que c'est l'une des solutions pour pallier à cette situation?
C'est pas ça la solution! Et je vous signale, Samuel Kachak, que cette mesure a encore eu on a ajouté un moratoire à cette décision. C'est-à-dire que 3 mois après, il faudrait encore que d'autres. Ce n'est pas des véhicules qui ont plus de 10 ans. Il y a des véhicules qui ont 20 ans qui roulent ailleurs.
Mais c'était avec la demande des importateurs.
Tout à fait. On peut dire tout ce qu'on veut. Là n'est pas le problème. Ce n'est pas l'importation de véhicules qui ont 10 ans, 50 ans ou 100 ans qui pose problème. Le problème, c'est que c'est le sérieux dans les décisions qu'on prend, c'est le sérieux dans le social de la population. Quand on dit qu'on prend une mesure que les véhicules de plus de 10 ans n'arrivent pas, quelle est la solution palliative? Vous avez vu les trains ici circuler? Vous avez vu des bus qui vont prendre les gens autres que ceux-là qui ont plus de 10 ans? Non, il faut gouverner, c'est prévoir. Tout ça, il faut planifier. Il faut voir. Et puis, les bus qui sont arrivés, ils ne sont que 200 dans une ville de 10 millions d'habitants. Ils vont rouler sur quelle route? C'est tout ça. C'est un problème de gouvernance générale. Ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu un drame aujourd'hui qu'on doit s'arrêter et commencer à pleurnicher, avoir des solutions à gauche et à droite, demi-solutions.
Mais c'est déjà un premier pas, qu'on ne peut pas saluer cela. Mais
saluer que les bus n'arrivent plus, c'est-à-dire que le problème va se poser davantage. Est-ce qu'on a monté une usine de montage ici à Kinshasa pour que ces bus aient 0 kilomètre et zéro mois de survie.
Mais c'est un processus, ça pourra arriver avec le temps.
C'est un processus qui peut-être pourra arriver dans le temps, mais il faut que ça commence. Ça fait combien de temps que ça dure? Ça fait combien de temps que les gens sont là à ne penser qu'à eux? Ça fait combien de temps que les gens sont là à ne penser qu'à leurs propres intérêts? Par contre, vous voyez les jeeps qui arrivent, 0 kilomètre, climatisés, et qui roulent à travers la capitale. Il semble que Kinshasa est la ville qui a le plus grand nombre de bus, des jeeps 4x4 climatisés des pays d'Afrique. Soyons sérieux. Alors, à quoi on pense? Quelle est la priorité de nos dirigeants? Que eux soient dans le confort et que la pauvre population, on s'en fout? C'est peut-être ça. Mais ça, c'est pas une politique. On peut dire non, petit à petit, ça arrivera. Bon, prions le bon Dieu que ça arrive un jour et que, bon, peut-être que le bon Dieu va toucher leur cœur. Ils penseront à la pauvre population congolaise. C'est dommage.
Pierre Mpikansimba, nous sommes vers la fin de notre émission. Quel pourrait être votre dernier mot pour clore le débat de ce soir?
Oui, pour clore le débat de ce soir, nous sommes en train de lancer un appel en direction des autorités d'abord, en ce qui concerne tout ce que la population est en train de vivre à travers le pays, que ce soit sur les plans politiques, sécuritaires, économiques, et d'abord le gouvernement de la République démocratique Congo qui est appelé à prendre les choses en main. Puisque ça ne peut pas se comprendre que les situations qui se produisent chez vous, mais il fallait d'abord quelqu'un de l'extérieur pour venir trouver une solution. C'est pratiquement impossible. Il fallait que d'abord les autorités soient interpellées et s'impliquent pour qu'on arrive à éradiquer tout ce qui fait mal à la population.
Merci beaucoup Pierre Mpikansimba. Et c'est avec vous que nous mettons fin à cette émission qui vous a été présentée par Samuel Kachak. La technique était assurée par Jean-Noël Moncon. Dimat et Kelly Kouté étaient à la réalisation sous la supervision de Julien Nyamweni. La rediffusion de cette émission, c'est demain matin à 4h15 heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur les antennes de Radio Okapi.